Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pote dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Insight. Aujourd'hui à mes côtés, je reçois Morgane Kobe qui est directrice conseil au sein de l'agence Vagram et vous. Salut Morgane, comment tu vas ?
Très bien, je te remercie, je suis ravie d'être là.
On est très heureux de te recevoir, d'autant plus que tu viens de notre belle ville de Bordeaux pour être dans nos locaux de Levallois. On va parler d'un sujet inhérent à votre expertise au sein de l'agence qui est le voyage incentive. Tu vas nous expliquer un peu le concept, tu vas venir détailler un petit peu les solutions que vous proposez et pourquoi il est différent des autres activations pour entreprises. On va essayer de comprendre tout ça, on a une trentaine de minutes. Pour commencer, si tu veux bien, Morgane, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que fait Vagram et vous comme agence ? Qu'est-ce que vous proposez à vos clients ?
Oui, avec plaisir. Mais Vagram et vous, c'est une agence de communication événementielle donc basée à Paris et à Bordeaux depuis peu, qui conçoit et produit des événements et des voyages pour ses clients. Vagram et vous, c'est vraiment une agence qui est spécialisée dans le cœur de métier historique, c'est le voyage justement. C'est une longue histoire d'amour, ça a commencé il y a un moment, ça a commencé en 2008, un peu par hasard sur un brief entrant sur un voyage à plus d'un million de chiffre d'affaires. Ça a été remporté, ça a été un booster à l'époque, on était en crise et ça a permis à l'agence de se développer. Et donc, c'est un vrai lien très très fort entre Vagram et vous et le voyage.
On va parler, comme je te le disais, du concept de voyage incentive. Est-ce que tu peux nous briefer un peu ? Tu peux nous expliquer ce qui va différencier ce concept d'un autre type de séminaire ? Comment ça se passe ? Et qu'est-ce qu'on va retrouver dedans ?
C'est extrêmement intéressant de reposer un peu les bases parce qu'on parle beaucoup de voyage incentive et ça peut vite être un fourre-tout où on met tout plein de choses. Donc, c'est important de se redire, OK, l'incentive, c'est quoi finalement ? Ben, l'incentive, c'est la stimulation. Donc, le voyage incentive, c'est vraiment le voyage de motivation, de récompense. Les clients, les entreprises vont mettre en place un voyage incentive quand ils veulent vraiment booster quelque chose, booster leur cible, que ce soit à l'interne pour aller booster les ventes ou que ce soit à l'externe pour également faire vendre plus leurs clients, pour les faire adhérer à la marque. Ça se différencie d'un séminaire, à mon sens, par le fait que dans un séminaire, on a une notion quand même de travail, on a une notion d'information descendante. On est invité à un séminaire. On ne se rend pas acteur d'un séminaire. On ne décide pas d'aller à un séminaire. Quand un voyage incentive, on est challengé. On est acteur de pouvoir participer à ce voyage. Et derrière, on est sur du plaisir sur le voyage incentive. On est vraiment sur une notion décorrélée du quotidien. On n'est plus dans ses missions. On n'est plus avec ses collègues à la machine à café. On est complètement dans la récompense. On est dans l'expérience. Donc, en ça, pour moi, c'est assez différent du séminaire.
Traduction française, hein, voyage incitatif, si on veut être proche de notre langue de Molière. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu là où ça va peut-être créer des opportunités? Est-ce que les gens voient le plein potentiel de ça et sont pas dans une logique juste de « bah moi, ce qui va me récompenser, c'est très bien le voyage, mais c'est une augmentation de salaire ». C'est ce genre de choses. Est-ce que les deux peuvent aller ensemble ? Est-ce que l'un n'est pas en face de l'autre ? Et est-ce que les collaborateurs arrivent à se projeter avec ça ? J'imagine que oui, mais comment tu peux nous expliquer un peu la plus-value auprès de ces collaborateurs de ce concept-là, qui, par définition, s'il n'est pas obligatoire, on va peut-être perdre des gens ? Comment on fait en sorte que bah, toute sa boîte, tous ses partenaires, tous ses collaborateurs participe à ça?
Mais c'est extrêmement intéressant. En fait, l'incentive, comme tu le dis, c'est la stimulation. Ça a quelque chose d'extrêmement riche parce qu'à contrario d'une prime, d'une augmentation, on va proposer de l'expérience. On est dans quelque chose d'expérientiel qui a trait à l'émotion. Je pense qu'on est en 2024 dans une tendance de fond qui est assez importante. Les gens cherchent plus à vivre des choses qu'à posséder des choses. Et en ça, je pense que le voyage incentive vient vraiment répondre à une attente, à un besoin. Un des grands piliers, c'est l'expérience, mais c'est l'expérience humaine et c'est l'expérience collective. Je pense que c'est aussi quelque chose de très intéressant dans l'incentive, là encore, qui va se détacher de quelque chose qu'on a obtenu individuellement et qu'on va vivre individuellement. Dans le voyage incentive, on vit quelque chose en collectif. On vit quelque chose avec ses collègues. C'est vraiment un win-win parce que pour l'entreprise qui a mis en place un incentive, il y a un passage à l'acte. Donc, il y a des commerciaux qui vont vendre plus. Il y a des clients qui vont plus adhérer à la marque. Et puis, il y a aussi vraiment un lien qui va se créer entre les gagnants de ce challenge, entre les gagnants présents sur un voyage incentive, qui vont, eux, créer un lien qui est unique, parce que le voyage, ça s'inscrit dans le temps, ça s'inscrit dans une durée, on passe plusieurs nuits ensemble dans un lieu en dehors de chez soi, et on crée vraiment quelque chose de différent qu'à la machine à café. Il y a des anecdotes, des souvenirs communs. Ça vient aussi nourrir la marque employeur, puisque du coup, on va avoir vraiment une fierté d'appartenance à la société qui nous a proposé cette expérience, grâce à qui on a pu ouvrir des portes, grâce à qui on a pu vivre quelque chose qu'on n'aurait pas vécu seul. Quand on se retrouve avec des collègues au milieu du désert et qu'on a un setup éphémère qui nous attend au coucher du soleil et que ça se joue dans le cadre de l'entreprise, ça crée un vrai sentiment de valorisation et je pense un vrai sentiment d'appartenance à l'entreprise. Donc, c'est vraiment un win-win pour tout le monde.
Tu m'as parlé de gagnant. C'est quelque chose que tu dois gagner, ce voyage-là, ou c'était...
Alors, le voyage incentive est souvent conditionné par un challenge.
D'accord.
L'incentive, effectivement, encore en France, en 2024, beaucoup les forces de vente. Mmh. On a beaucoup de clients, de grands groupes de téléphonie.
Et vous, est-ce que c'est collectif? Ma question, c'était plutôt, est-ce qu'effectivement, au final, sur 10 vendeurs, t'en as 4 qui sont aux objectifs et plus, est-ce que c'est eux qui sont les gagnants, il n'y a qu'eux qui partent, ou c'est, au global, la team Newbies qui part ensemble?
Tous les cas de figure existent.
Ok, oui, d'accord, il n'y a pas de...
Non, il n'y a pas de règle en la matière. Nous, on a un de nos grands comptes clients qui a vraiment cette culture de challenger la force de vente. Et là, on va challenger 900 personnes et il y en a 50 qui vont partir ou 150 sur trois voyages.
Tu peux nous dire ou pas, les gens avec qui vous travaillez là-dessus?
On est alors beaucoup sur l'incentive force de vente. On va avoir beaucoup la téléphonie qui utilise ce levier. Mmh. On a beaucoup aussi le monde de l'automobile, le monde du BTP, le monde des assurances. C'est des grands acteurs qui ont ces mécanismes-là. Mais pour en revenir à qui et comment pour un voyage incentive, il y a la force de vente soit, mais on peut aussi décider, n'importe quelle structure, de se dire à l'atteinte des objectifs collectifs, on va tous partir ensemble. Et il y a toujours une stimulation, il y a toujours un voyage qui est conditionné par l'atteinte d'un objectif, mais il peut tout à fait être collectif et on peut tous remporter ensemble et tous partir ensemble. On peut aussi utiliser l'incentive pour pousser à l'innovation. Je pense à un voyage en juin l'année dernière. On était en Italie avec un groupe d'une cinquantaine de personnes. Ils avaient été challengés sur des projets innovants au sein de l'entreprise. Et ils se sont rencontrés, ça a été très puissant parce qu'en fait, ils ont découvert les uns et les autres, tous d'univers différents au sein de la boîte. Et ils sont repartis avec un réseau solide, avec des connexions et avec des nouvelles task force. Ça, c'était extrêmement intéressant parce que de nouveaux sujets, de nouvelles idées étaient venues en fait en croisant tous ces univers.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une logique d'intégration des enjeux RSE dans tout ça? Parce qu'évidemment, j'imagine que oui, mais on a une volonté de la part souvent des collaborateurs d'être engagés sur un certain nombre de sujets et peut-être que ça peut en bloquer certains de se dire on va dans ce voyage-là prendre tel ou tel type de moyen de transport. Et que, est-ce que cette logique-là, elle est prise en compte pour motiver les gens? Est-ce que c'est quelque chose que vous intégrez sur le côté RSE où on se déplace en train, où on va pas hyper loin? Enfin, je sais pas, je pose la question dans le sens où... Peut-être qu'il y a certains collaborateurs qui, même s'ils sont hypés par le concept de partir en voyage en incentive pour récompenser les bons objectifs, ou à l'inverse, permettre d'avoir les bons objectifs pour bien incentiver, bah, se disent « Ouais, c'est cool, mais au final, si on doit se barrer à l'autre bout de la planète en avion, bah, je suis pas en corrélation avec ce que je pense et du coup, bah, je passe à côté d'un truc cool. » Comment on fait pour s'adapter un peu à ça, aux besoins des collaborateurs qui maintenant sont hyper sensibilisés à tous ces sujets?
Bien sûr. C'est absolument indispensable d'en parler parce que ça fait vraiment partie des enjeux de notre quotidien. Moi, je suis assez convaincue qu'en fait, plutôt que de l'intégration de la RSE, il faut penser RSE et en fait, il faut éco-concevoir nos voyages. C'est dès la racine de nos premières idées, de qu'est-ce qu'on fait, où on va et comment on y va et quelle histoire on raconte, qu'il faut qu'on aille penser à chaque étape, ok, quel impact ça a économiquement, écologiquement, socialement parlant, là où on va. Donc, c'est vraiment de tricoter ça sur mesure dès la racine. Après, nous, chez Wagram et vous, on est aussi intimement persuadés que le voyage, il peut avoir lieu en bas de chez soi, qu'on a aussi un terrain de jeu incroyable dans toutes nos régions.
Je pense qu'en France, on a de quoi s'amuser en vrai.
Absolument, absolument. Et on a, je pense, un grand rôle à jouer en fait dans l'accompagnement de nos clients sur la communication. On prend des grands groupes qui ont un historique de voyage long courrier à l'autre bout du monde avec des 12 heures de vol. Aujourd'hui, certains, par la contrainte, ne peuvent plus faire ça. Nous, on est là pour leur dire que c'est pas très grave parce qu'en fait, on peut faire des choses incroyables et dépayser leurs invités juste en bas. Et puis après, évidemment, nous, on a mis en place tout un tas de choses pour vraiment avoir des automatismes et des réflexes. On a banni certains gestes. Évidemment, on est à la chasse au plastique sur nos voyages. Évidemment, il y a des choses qui avant étaient faites et maintenant, on pense non-achat, on pense cycle de vie du produit, on pense mobilité douce. Voilà, on voit en priorité des choses qui ont des impacts positifs. Et puis, on pense à ce qu'on fait sur le terrain et l'impact qu'on laisse aussi dans les endroits qu'on visite.
Ouais, non, mais c'est important, au-delà de l'aspect RSE et prise de parole et montrer qu'on fait les choses bien à l'extérieur, mais c'est aussi un enjeu pour ses propres collaborateurs qui, effectivement, veulent mettre des actes sur les discours, etc. Donc, c'est important aussi de faire le point pour vraiment engager ces équipes pour montrer qu'on fait les choses correctement. Vous, en tant qu'agence, vous recommandez des choses qui sont responsables, qui sont éthiques, qui sont réfléchies. Et déjà, rien que ça, c'est un bon boulot qui est fait. J'avais aussi une question, moi, par rapport, peut-être un peu piquante, mais ça fait un petit peu... on te propose quelque chose pour l'objectif, donc je pense que tu vas me répondre là-dessus. Mais est-ce que c'est pas un peu du management, un peu à l'ancienne, où voilà, tu vas gagner, tu vas avoir ton classement des commerciaux, tu vas gagner. Et est-ce que on est toujours sur ça? Moi, je sais qu'on est toujours sur ça, parce que j'ai vu pas mal de boîtes sur ça, et que fondamentalement... quand t'es commercial, c'est ce pourquoi t'es là. Mais est-ce que ce voyage-là, Incentive, il est encore au goût du jour? Comment on réinvente ce concept-là? Est-ce qu'on n'est pas sur un truc peut-être un peu à l'ancienne ou qu'au final, on sort un peu du placard alors qu'on est vraiment dans quelque chose de nouveau?
Ouais, non, c'est extrêmement intéressant et je souris parce qu'effectivement, cette question, elle nous a été posée par une dirigeante d'un des plus grands groupes français de bricolage très récemment, il y a 3 semaines, en étant en Europe, pas très loin. Et elle s'est déplacée, en fait, sur un Incentive. Ouais. Parce que justement, elle se demandait si c'était pas un peu terminé si c'était pas un peu has-been, c'est ses propos, de continuer à incentiver une force de vente, comment la mayonnaise prenait. Et c'était sans appel, elle est venue, elle a vécu la chose et elle s'est dit « Ok, en fait, ça marche toujours ». Et pourquoi ça marche toujours? Je pense qu'on l'a un peu dit tout à l'heure, c'est parce que vraiment, les gens recherchent à vivre de l'expérience et pas à posséder des choses. On en discutait avec l'acheteur d'un de nos clients. Il nous disait, ils ont fait un questionnaire de satisfaction à l'issue du Covid. Parce qu'évidemment, pendant le Covid, on ne voyage plus. On ne voyage plus, mais il y avait des challenges qui avaient été lancés. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour récompenser ces gens qui ont gagné des choses, mais il n'y a pas de voyage à la clé? Eh bien, ils ont fait des chèques cadeaux, des box, questionnaire de satisfaction à la fin pour se dire « Ok, qu'est-ce qu'on fait ?» Parce que finalement, si ça vous a plu, on en reste là. Et puis, comme ça, on n'a plus ce sujet de voyage. Ça a été sans appel. C'est surplébiscité. Parce qu'une fois de plus, c'est vraiment l'expérience qu'on va vivre, le lien que ça va créer, les anecdotes. Voilà, le voyage, c'est l'émotion. Dans l'émotion se forge le souvenir. Et le souvenir, il perdure, il circule. Et en fait, ceux qui rentrent, ils en parlent à ceux qui sont challengés, qui ont aussi envie d'y aller. Et puis, on ouvre des portes, en fait. C'est ce qu'il faut aussi dire. C'est que sur des voyages incentives, on va faire des choses. On nous demande souvent le « what money can't buy ». On est là-dedans, effectivement. On va pouvoir, par la force de l'organisation d'un voyage par une agence, ouvrir des portes, privatiser des choses, faire des choses complètement hors des sentiers battus, comme c'est attendu.
Mais c'est intéressant. Et au final, on y retrouve toujours les mêmes logiques. Hein. C'est l'humain, c'est son besoin d'être connecté, c'est l'animal social, ce besoin d'être en interaction. Versus, t'as la nouvelle iPhone 15, très bien, mais t'as pas, comme tu dis, le lien social, l'expérience, le moment qui fait que dans 4-5 ans, même quand il y aura le nouvel iPhone, t'auras toujours ça en tête. Donc, je trouve intéressant, et c'est pour ça que je t'ai posé la question, de vraiment se dire, alors attends, est-ce que c'est vraiment le truc qui marche? Fondamentalement, on y est, on est dans ça, on est, surtout en plus post-Covid, je pense, on est dans ce besoin de se retrouver. Question par rapport à tout ça, qu'est-ce qui marche le mieux? Pour ceux qui nous écoutent, je pense que la question est peut-être arrivée dans leur tête. Qu'est-ce qui marche le mieux entre le voyage récompense, après les performances et les résultats, ou le voyage et l'expérience en amont pour motiver les troupes et les incentiver et les motiver, les mettre un peu dans le mood? Qu'est-ce qui est le plus efficace, qui marche le mieux, ou en tout cas peut-être le plus plébiscité auprès de vos clients?
Je dirais que l'un peut aller avec l'autre déjà. Ça peut être très complémentaire. Le voyage incentive qui motive des forces des ventes, il a fait ses preuves, il fait ses preuves dans les chiffres. C'est mathématique, nos clients nous le disent. Retour de voyage ou challenge qui se lance, ils le voient dans les ventes, dans leur courbe, sur leur tableau. Donc ça, c'est sans appel. Et après, le voyage qui va stimuler la motivation, moi, j'y crois énormément, mais la motivation en dehors des chiffres, qui va aller chercher de la cohésion. On n'a pas parlé de team building, mais ça fait partie des composantes phares de la plupart de nos voyages incentives, où on va aller chercher à créer et à accélérer les liens. Je pense que c'est absolument complémentaire et je pense que c'est aussi extrêmement puissant de ce côté-là pour pouvoir créer autre chose qu'au bureau.
Je rebondis là-dessus parce qu'effectivement, tu sais qu'il y en a qui marchent vraiment à la perf et d'autres qui ont peut-être plus ce besoin d'être stimulés en amont, d'être intégrés, d'être dans cette dynamique et c'est ça qui va les motiver, alors que d'autres gagnent un truc pas spécialement. Donc, je voulais vraiment avoir ton retour là-dessus. Et quand on écoute ce que tu nous racontes là et on se projette un peu, au final, on se rend compte très concrètement que votre agence et au global l'accompagnement des forces de vente est un levier pour développer son business et ses ventes et qu'on n'est pas uniquement soit dans la fuite vers la promotion ou le marketing, soit dans la fuite vers des prix tirés vers le bas, etc. en mode guérilla, mais on a une solution pour augmenter ses ventes qui est aussi en interne, sur ses équipes, sur ses salariés et par ce genre de format. Donc pour ceux qui nous écoutent, c'est peut-être bien aussi de se projeter pour dire développer mon business, il y a d'autres solutions que faire des promos de fou malade et de se dire on va faire 50 000 dans de la pub. Peut-être que 30 000, 10 000 dans la pub, 40 000 dans un event, on arrive à des perfs soit meilleures, soit équilibrées, mais en tout cas, on se rend compte que votre expertise, s'il faut le dire très concrètement, votre expertise permet d'augmenter les ventes d'une boîte, quoi.
Absolument.
Si je suis bon dans
le... Je pense qu'on peut le dire. Oui, oui. Non, mais on a cette conviction, effectivement, que c'est un vrai outil hyper puissant.
Parce que ça, c'est, voilà, le but, c'est effectivement, c'est de parler de l'humain, mais je pense que pour ceux qui nous écoutent, pour se projeter, il faut qu'ils disent, ouais, ça m'importe quoi. Là, je pense que les réponses sont plus ou moins claires, enfin, sont même claires. T'as des infos, t'as des datas, t'as des chiffres, t'as des clients. Donc, voilà, le problème, je pense que c'est que parfois, il y a un certain nombre de boîtes qui mettent ce genre d'event en mode séminaire et qui pensent que c'est assez. Et comme tu dis, séminaire, c'est le boulot. On fait le boulot la journée et le soir, un peu la fête. Mais fondamentalement, il y en a qui aiment pas boire, il y en a qui aiment pas faire la fête entre eux. Les gars du taf, c'est pas leurs potes forcément, mais ils sont là par principe. Mais parce que c'est obligatoire, ils sont là. Donc, c'est pas le meilleur souvenir. Toi, en tant que patron, tu te dis, ouais, j'ai fait un truc, c'est trop cool. Mais est-ce que c'est ce que ton équipe voulait? Alors que la logique de l'incentive, je pense, de ce que tu me racontes, répond un peu plus au besoin central du collaborateur qui est... Bah, soit ça me chauffe au début et ça me permet d'avoir des objectifs, soit bah, ça va me récompenser une fois atteint cet objectif. Donc, je pense que c'est bien de résumer, en tout cas, c'est bien de projeter un peu l'avantage sur ça, au-delà de l'aspect humain, c'est bien de projeter sur le business, vous aider au business, au développement du business des entreprises. J'avais une question par rapport à vous, votre solution, comment vous accompagnez les clients? Est-ce qu'il y a une offre précise? Est-ce que c'est du sur-mesure à chaque fois? Est-ce qu'on a des tickets d'entrée plus ou moins élevés? Comment ça fonctionne si demain, quelqu'un nous écoute et se dit « Ok, bah, ça me branche pas mal, il faut qu'on bosse avec Wagram et vous. » Qu'est-ce que vous leur proposez?
Nous, on est sur du sur-mesure, absolument. Il n'y a pas un voyage qui est le même. On tricote une expérience, on raconte une histoire. Le premier jalon, ça va être vraiment de vraiment comprendre la cible à qui on a affaire. On a besoin d'être nourri de l'histoire du client, de ses objectifs. On va vraiment faire un travail quand même de planning stratégique à un moment donné pour comprendre, en fait, OK, vous voulez mettre ça en place, il y a quoi derrière? C'est qui est votre cible? On va pas proposer le même voyage incentive à une force de vente qui vend des téléphones en boutique avec une moyenne d'âge de 27 ans que des couples qui sont incentivés avec leur, enfin voilà, qui sont invités avec leur conjoint avec une moyenne d'âge de 55 ans. Donc nous, on a besoin de se nourrir vraiment de l'histoire. Et derrière, on va effectivement raconter une histoire. On va monter un programme sur mesure avec des musts, avec des vraies règles du jeu, avec des happenings à tout moment. C'est vrai que nous, on a une vraie conception du voyage événementialisé. On va aller amener à chaque moment un temps fort, un happening, une surprise, un moment inattendu, une rencontre. On en parlait, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et puis, on va proposer un programme crescendo qui monte en puissance. On va ficeler tout ça dans une logistique millimétrée parce que c'est aussi pour ça que les clients font appel à nous. C'est en ça que notre proposition est complète. Et puis, on propose aux clients de les accompagner aussi pour toute la communication, toute la mécanique, parce qu'un voyage, ça se prépare, avant, effectivement, il faut que l'adhésion se crée, il faut que les gens se motivent déjà avant le voyage pour arriver dans des bonnes dispositions et pour avoir donné le meilleur pour les chiffres dont on parlait. Et puis, il faut après surfer sur la vague au retour pour continuer à faire vivre le voyage. Et nous, du coup, on a une offre vraiment à 360 sur mesure. On a en interne des chefs de projet métiers passionnés et experts sur notre terrain, qui est le monde. Donc, on a une belle matière première. Et puis, on est accompagné par une super équipe au niveau de la communication. Donc, on a la chance d'avoir une directrice artistique et graphiste. Enfin, voilà, on est vraiment outillé pour accompagner nos clients à 360.
C'est quoi la secret sauce de Vagram et vous ? Est-ce qu'il y a une, tu m'as parlé d'accompagnement sur mesure, est-ce que il y a une manière de faire ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on retrouve pas ailleurs ? J'imagine que oui, mais est-ce que tu peux nous en parler sur l'état d'esprit, sur la patte Vagram et vous ? Est-ce qu'il y a une connexion particulière avec les territoires ? Du coup, vous bossez en direct avec les régions, les départements ? Est-ce que vous avez des contacts sur place ? Si oui, est-ce qu'ils sont travaillés un peu plus que la moyenne ? C'est quoi le petit côté un peu magique de l'agence ?
L'épée magique.
Ouais.
Eh bien, écoute, comme tous les concurrents qu'on retrouve, on a une concurrence saine, c'est un petit écosystème, hein, finalement, le voyage. On va évidemment avoir une force de conseil et un réseau testé et approuvé dans les différents pays qu'on étudie. Ça, c'est extrêmement important pour le client parce que ça nous permet d'avoir une gestion des risques maîtrisée, d'avoir un accompagnement en cas de ceci et en cas de cela. Et on sait qu'en 2024, c'est plus que jamais fondamentale. Et ça, j'ai envie de dire, voilà, toute bonne agence qui se respecte va vraiment être assurée de ce côté-là. Après, je crois vraiment que Vagram et vous, à ce côté très agile de la petite agence faite de gens passionnés et qui vont fouiner, creuser. Et en fait, on a aussi cette cellule qui est en veille constante sur les dernières tendances, sur les derniers lieux. Nous, on a à cœur d'aller chercher l'expérience inédite, qui a jamais été faite. Et puis, on a ce trait de caractère un peu tous commun, d'avoir un peu d'audace et l'envie de défricher. Je repense là spontanément sur 2023. On a créé from scratch des rallyes dans des endroits où ça avait jamais été fait, où c'était un petit peu audacieux. Je pense notamment sur le site en Jordanie de Petra, où on nous disait non, c'est pas possible, on n'a pas les autorisations et tout. Puis on va aller voir, on est allé sur le terrain, on est allé voir les bédouins. Et puis au final, on tricote quelque chose sur mesure. Donc je crois qu'il y a vraiment cela dans le collectif Vagram. Et puis, il y a vraiment ce goût de la personnalisation. Et je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. On pense à l'expérience individuelle dans le groupe. C'est-à-dire que souvent, on aime bien dire qu'on ne gère pas des groupes, mais on gère des individus dans le groupe. Et je pense qu'en ça, on a une approche qui peut être un peu différente.
Qu'est-ce qui va faire la différence sur l'engagement des collaborateurs ? Qu'est-ce que vous allez chercher de leur part ? Est-ce que vous attendez... Tu l'as dit un petit peu au début, mais est-ce que vous attendez un engagement particulier ? Comment on fait pour les rendre actifs et qu'ils ne soient pas passifs sur « Ok, on fait l'event, très bien, on fait la cour ». Comment on les engage ? Parce que j'imagine que même si les activités sont waouh, il y a toujours un moment donné où il faut les intégrer, il faut les faire participer soit à la conception d'un truc, soit aller demander un avis à un moment donné. Comment on les intègre vraiment dans, dans ce moment qui est quand même le leur au final, parce qu'ils ont bossé pour et c'est leur récompense. Comment on les intègre et comment on leur fait sentir que ce n'est pas... Le truc un peu offre premium, gold, etc., où t'as pris... Comment ils se disent « Ok, je suis acteur de mon truc, c'est vraiment fait pour moi, c'est mon event ».
Ça, c'est quelque chose qui nous anime au quotidien et c'est en ça qu'il est extrêmement important pour nous de vraiment connaître notre client, de vraiment se nourrir de qui il est, de sa vision, de son ADN. Et nous, on va devoir aller chercher ce qui touche les gens. Quand on a compris ce qui touche notre cible, quand on a compris les messages qui sont à faire passer aussi et comment on peut valoriser le fait que tout ça, c'est rendu possible grâce à notre client, grâce à une entreprise, on va aller personnaliser toutes les expériences et on va aller mettre des touches, des ingrédients. Donc, un rallye sera pas un rallye lambda qui a pas d'histoire. On va faire un storytelling sur mesure qui va partir du client, qui va injecter des touches de sa marque et des choses que les invités vont pouvoir reconnaître et s'approprier.
C'est important pour nous de prendre le temps de parler de tout ça parce que, évidemment, les gens qui nous écoutent vont commencer un peu à se projeter. Ils vont commencer à aller voir leur, soit leurs équipes pour leur parler de ça, ou à l'inverse, ils vont aller voir leur boss pour leur dire, les gars,
pourquoi ?
J'ai entendu parler d'un concept. Je sais pas si ça vous parle, le voyage incentive. Donc, c'est bien aussi de faire naître ces questions et d'y apporter des réponses parce que je pense que, fondamentalement, le concept du voyage, vous le transformez plutôt bien. On n'est pas sur un truc classique. Donc ça, on l'a bien compris. J'aimerais bien que tu nous parles de l'agence et qu'on se projette un peu. Dans les 6 prochains mois, où est-ce qu'on vous retrouve ? Où est-ce que l'agence sera ? Et dans 6 ans, où est-ce que vous êtes ?
Dans 6 mois, où est-ce qu'on sera ? Là, on est dans la tête, dans les prépas de dans 6 mois. Donc, c'est assez intéressant. On nous retrouve un peu en voyage aux 4 coins de l'Europe. on nous retrouve sur des sujets dans nos régions du talent, c'est ce qu'on disait, pas très loin de chez moi à Bordeaux, on a déjà des événements qui se préparent. Dans 6 ans, alors ce serait un peu présomptueux, j'ai pas de boule de cristal pour savoir où on sera dans 6 ans, parce qu'en fait on est dans un métier où on est extrêmement lié à tout ce qui se passe dans le monde. C'est un métier depuis toujours qui nous force à nous adapter, et en même temps c'est ce qui nous crée des opportunités aussi. Donc on ira là où les contraintes nous le permettent, et en même temps on sera à mon avis toujours sur des expériences plus enrichissantes, plus valorisantes, dans un voyage toujours plus connecté dans les relations, mais aussi plus connecté grâce à toutes les innovations techno. Donc on sera à mon avis dans quelque chose d'absolument passionnant, comme l'a toujours été le monde du voyage. Et je pense qu'il a vraiment de belles années devant lui, parce que les gens ont besoin de se retrouver, de vivre ensemble des expériences, de se rencontrer. Et nous, on sera toujours à l'affût et dans la recherche de la rencontre avec la personne qui habite peut-être dans son quartier, mais dont on ne connaissait même pas l'existence, et qui en fait a un savoir-faire à transmettre et une histoire à raconter. Donc on sera toujours accélérateur de liens, j'espère.
Je trouve ça cool, le concept d'accélérateur de liens, et la comparaison aussi aux voisins, parce que fondamentalement, après Covid, on a vu qu'il n'y a plus besoin de se barrer, je sais pas où, au Japon, même si c'est très cool, de se barrer au Maroc, au Japon ou autre, pour avoir des paysages de fou. Et on s'est rendu compte que parfois, personne n'avait mis les pieds en Bretagne, ni en Catalogne, ni dans le sud, de côté de Marseille, ni en Alsace. Et donc, je rebondis là-dessus pour ma dernière question de l'épisode. Est-ce que tu vois des tendances se dessiner un peu, là, très concrètement, sur le voyage, en tant que tel, sur les destinations, sur les mécaniques recherchées par les Français? Est-ce que tu sens des tendances de fond? Est-ce que... on l'a vu avec Covid, on voulait plus de territoire, plus de local, plus de slow. Est-ce qu'on est toujours dessus, ou est-ce qu'on a passé un cap et on est peut-être sur des choses un peu dans les pays asiatiques où c'est pas très cher, mais du coup l'expérience elle est folle, parce qu'au final on est quand même dans des paysages et dans des espaces beaucoup plus grands, ou à l'inverse un peu plus proche en Europe, parce que l'Europe elle est un peu sous pression en ce moment, donc on cherche à la redécouvrir. Bref, est-ce que tu as des tendances un peu de fond sur ce que va être le voyage dans les prochaines années?
Évidemment, on ne voyage plus comme on voyageait avant. On l'a dit, la RSE, c'est incontournable. On pense nos voyages, on les crée avec ces dimensions-là. Et de fait, assez naturellement, on va retrouver des contraintes à voyager long courrier, des interdictions, voire des interdictions. Donc, on va vraiment être sur des territoires plus proches. On reste là-dedans, on reste dans la recherche de l'expérience. On va de plus en plus étudier les solutions en train, même si, en fait, les derniers rapports, là, notamment d'Interface Tourisme, nous disent que finalement, ça n'est pas partie des premiers leviers, le transport comme outil RSE à intégrer dans nos voyages. Néanmoins, on est là-dedans, on est dans la recherche des itinéraires en accès en mobilité douce. L'Europe, effectivement, est beaucoup plus plébiscitée. Et puis, il y a la RSE, puis il y a aussi une réalité qui est le coût de l'aérien. De toute façon, quoi qu'il arrive, on a des budgets qui restent sensiblement les mêmes, avec un aérien à l'international qui a augmenté entre 20 et 30 %. Donc, mathématiquement, effectivement, on est sur des reports de destinations plus proches.
C'est hyper clair pour moi, Morgane. On termine cet épisode en rappelant qu'on peut retrouver toutes vos activations, vos différentes opérations, vos différentes infos et communiqués de presse sur jimpod.com, sur l'espace agence, sur lequel vous avez votre belle page dédiée avec tout ce qu'il faut. Merci déjà à toi, Morgane, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
Merci à toi.
Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est toujours bon pour le référencement. Et moi, je vous dis à très bientôt.